au début du Second Conflit mondial. Quand mon oncle entre dans la résistance, il prend un nom de guerre pour remplacer le sien, qui a une forte consonance germanique. Je connais plusieurs personnes qui ont un nom propre difficile à porter, parce que c'est une cible toute faite pour les colibés. Le prophète âgé a lui aussi un nom intéressant, car il signifie « festif » ou « fête solennelle ». Certains commentateurs pensent qu'il est né pendant l'une des quatre festivités solennelles d'Israël, et c'est ce qui expliquerait l'origine de son nom. Pour Jérôme, père de l'Église et rédacteur de la Vulgate, ce nom vient du fait que, comme l'écrit le psalmiste dans le psaume 126, « âgé » a semé dans les larmes, mais a moissonné avec des cris de joie. Le cœur, en fait, quand il est témoin de la reconstruction du temple de Jérusalem après l'exil. En réalité, âgé ne dit absolument rien de lui-même. Il fait son devoir, écrit un sommaire de sa prophétie en seulement 2 chapitres. Sol Absdios est plus court dans l'Ancien Testament. Puis, il se retire du devant de la scène, qu'il n'occupe d'ailleurs que 5 mois tout au plus. De ce prophète, on ne connaît donc que le nom et les 4 oracles que contient son livre, lesquels sont délivrés dans l'ancien royaume de Juda en très peu de temps, d'août à décembre de l'année 520 avant notre ère. Cependant, au travers de sa prophétie, on découvre un homme d'action, énergique et animé par une sainte impatience, car il a hâte de voir reprendre les travaux trop longtemps interrompus de la reconstruction du temple. Plus orateur que poète, il force ses contemporains à réagir en utilisant des images frappantes, et par ses convictions personnelles, il s'adresse à la raison, à la volonté de ses auditeurs, plus qu'à leur imagination ou à leurs sentiments, et le résultat désiré ne tarde pas à se faire attendre, car ses efforts sont couronnés de succès. La nécessité de la restauration du temple provient de la place considérable qu'il occupe dans la vie de la nation d'Israël. C'est, en effet, le signe visible de l'alliance conclue au Sinaï entre l'Éternel et son peuple, et le symbole de la résidence de Dieu au milieu de son peuple. Le temple renversé représente donc une sorte de rupture d'alliance et la cessation de la relation qui unit Dieu à la nation tout entière. Aux yeux d'âgé, la reconstruction du temple est donc une obligation sacrée qui doit s'imposer à la conscience des Israélites. Âgé est mentionné avec le prophète Zacharie, son contemporain dans le livre d'Esdras. Mais comme son nom ne figure pas dans les listes des colons juifs rentrés d'exil en 538, il se peut que sa famille, étant très pauvre, elle avait été autorisée à rester en Juda pendant l'exil babylonien. Ou bien, il n'est qu'un enfant qui accompagne ses parents quand ils se sont joints aux premiers Israélites qui ont pris la direction d'Israël. La troisième possibilité est que âgé fait bien partie des colons en tant qu'adulte, mais son nom ne figure pas sur les listes parce qu'elles sont incomplètes et répertorie surtout des chefs. Les noms d'âgé et de Zacharie apparaissent dans les titres du début de certains psaumes des anciennes versions grecques et syriaques. Mais on ne sait pas trop quel crédit accorder à cette tradition, car de telles mentions peuvent aussi provenir d'un scribe trop zélé. Quand on aime bien quelqu'un, on essaye de faire de lui un personnage important, un auteur accompli, un héros. Une autre explication possible est que âgé et Zacharie ont effectivement travaillé les 10 psaumes afin qu'ils puissent être chantés pendant le culte rendu à l'Éternel. Comme l'avaient annoncé les prophètes Ésaïe et Jérémie, Babylone est conquise en l'an 539 avant Jésus-Christ par Cyrus. roi des Mèdes et des Perses. L'année suivante, il promulgue un décret autorisant les Juifs à retourner dans leur pays et à reconstruire le temple de l'Éternel. Le texte gravé sur ce qu'on appelle le cylindre de Cyrus, découvert au XIXe siècle, nous apprend que cette décision fait partie de la politique menée par ce souverain envers tous les peuples assujettis, dans le but très égoïste, mais pratique, de se concilier ces populations ainsi que la bienveillance de leur divinité. Il ne faudrait surtout pas croire un seul instant que Cyrus est devenu monothéiste et adorateur de l'Éternel. On sait, au contraire, qu'il le révère Bel-Marduk, le patron de Babylone, et qu'après avoir capturé cette capitale, son premier souci est de remettre à leur place, chacune dans son sanctuaire, toutes les divinités de la ville. Il vaut toujours mieux avoir les dieux de son côté que contre soi, et si ça ne sert à rien, en tout cas, ça ne peut pas faire de mal, du moins, c'est ce que les anciens croient. Suite au décret de Cyrus, environ 50 000 juifs retournent en Juda sous la conduite du grand prêtre Josué et de Zorobabel, prince de Juda, qui devient haut commissaire de la Judée pour l'Empire perse. Mais ce départ de Babylone en direction de la Palestine ne donne pas lieu à un grand feu d'artifice, parce que les Israélites nés en exil sont confortablement installés et préfèrent rester où ils sont, car les affaires marchent plutôt bien. Que ce soit en terre promise ou à l'étranger, ils sont toujours sous la bénédiction d'Abraham. Il faut se mettre à leur place. Ils ont une bonne situation, portent costume cravate et font une tonne de fric. Alors, ils ne sont pas très motivés d'aller vivre dans un pays en ruine, occupé par des païens qui se sont emparés des maisons et des terres ayant autrefois appartenu à leur famille. Cependant, plus tard, sous Cambyse, le successeur de Cyrus, d'autres exilés ont un remords de conscience et retournent en terre promise, et par la suite, d'autres colons continuent d'arriver en Israël. En l'an 537 avant Jésus-Christ, quelques mois après leur arrivée en Palestine, les Israélites rétablissent l'autel des holocaustes qui se trouve à l'entrée du lieu saint du temple et offrent des sacrifices à l'Éternel. Ensuite, ils se lancent dans la reconstruction du temple proprement dit, qui avait été rasé par les Babyloniens, et posent des fondations de l'édifice. Mais c'est alors qu'au nom de la fraternité des peuples, les populations du pays proposent leur aide aux Juifs. En fait, c'est surtout ceux qui habitent le centre de la Palestine qui désirent se joindre aux travaux. Ces Samaritains, comme on les appelle, sont un mélange de descendants d'Israélites du royaume des 10 tribus du Nord et de païens étrangers amenés par les Assyriens pour repeupler le pays. Mais suite à leur demande, les Samaritains essuient un refus catégorique de la part de Zorobabel, car accepter la participation d'une peuplade syncrétiste à la construction du temple de l'Éternel introduirait l'idolâtrie en Israël. Or, la leçon infligée par Dieu à son peuple a porté ses fruits, et le nouveau peuple de Juda veut désormais rester à l'écart des influences extérieures néfastes qui ont jadis causé sa ruine. Oui, mais les Samaritains sont vexés par le refus de Zorobabel et décident de venger l'affront qu'ils viennent de subir en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour décourager les Israélites. Ils cherchent à les effrayer et arrivent à susciter une opposition si farouche à leur projet de reconstruction de la part des peuples d'alentour que les autorités perses font cesser les travaux. Les Juifs sont amèrement déçus parce qu'ils s'imaginaient qu'ils seraient sous la bénédiction divine et donc prospère. Alors, devant les difficultés rencontrées, ils jettent l'éponge, apprennent à vivre au milieu des ruines et décident de s'installer le plus confortablement possible, laissant à d'autres, et à plus tard, le soin de reconstruire le temple. L'enthousiasme, qui était de mise pour le rétablissement de l'autel des Holocaustes, se transforme en un vent glacial et le chantier est suspendu pendant plus de 15 ans. La situation perdure sous le règne de Cambyse, fils de Cyrus, qui est un roi cruel au caractère lunatique et qui est plutôt contre la reconstruction d'un temple à un dieu qu'il n'approuve pas. Apparemment, ce despote a trop tiré sur la corde ce qui a fatigué l'Éternel, et il meurt dans des conditions mystérieuses, sans doute par suicide. Il ne laisse pas de fils, et comme il a fait assassiner son frère après la mort de Cambyse, on se dispute le pouvoir. Suite à quelques intrigues compliquées, c'est Darius Hystaspe, de race royale, qui prend la direction de l'Empire perse. Au début, il doit faire face à plusieurs révoltes, ce qui l'occupe pendant 2 ans. Une fois l'ordre rétabli, Darius règne sur un empire qui, à l'est, va jusqu'en Inde et à l'ouest jusqu'à l'archipel grec. Dans l'ensemble, Darius est un bon administrateur, mais il fait une expédition désastreuse contre les Scythes qui habitent le bassin du Don, en Russie. Il a aussi quelques démêlés avec les Grecs et ses généraux. Sont vaincus à Marathon. Darius meurt à l'âge de 73 ans, après un règne de 36 ans. En passant, il vaut la peine de noter qu'en l'an 514, 8 ans après le début de son règne, Babylone tente de se révolter, et c'est la seconde fois sous le roi Darius. Les murailles de la ville sont alors démolies, marquant une étape importante de la destruction totale de Babylone annoncée par les prophètes de l'Éternel. C'est à la fin de la période de trouble des 2 premières années du règne de Darius que les prophètes Agée, puis Zacharie, se lèvent pour appeler le peuple élu à poursuivre les travaux de reconstruction du temple. Les Israélites se remettent alors au travail, mais les responsables politiques de la province perse, qui ont juridiction sur la Palestine, s'inquiètent de cette activité religieuse et envoient un rapport à Darius. Cependant, les chefs du peuple de Juda défendent leur droit de continuer les travaux en s'appuyant sur le décret de Cyrus en 538. Darius ordonne alors de faire des recherches dans la capitale de la Médie, où l'on retrouve l'édit de Cyrus. Darius autorise alors la reprise de la reconstruction du temple, qui sera achevée en l'an 516. La reconstruction du temple a donc pris 20 ans. Les 4 oracles qui composent le livre d'Agée sont tous datés avec précision, parce qu'on a retrouvé des documents consignant les observations astronomiques qui permettent de convertir ces dates dans notre façon de compter les années. Au moment où Agée commence son ministère, le temple est en ruine et les Juifs ne s'en préoccupent pas. Ils ne s'intéressent qu'à leur propre situation et passent leur temps à améliorer leur sort et embellir leur maison. Mais il faut dire aussi qu'ils sont en mode de survie à cause des conditions économiques difficiles qu'ils connaissent. La prophétie d'Agée porte essentiellement sur la nécessité de reconstruire le temple de l'Éternel après plus de 15 années d'arrêt de travaux. Le texte que nous possédons n'est qu'un sommaire de ces oracles. C'est de la prose ordinaire, mais puissante dans sa simplicité, et tout porte à croire que dans sa forme complète, le langage de cette prophétie est très, très éloquent. De toute façon, il n'est pas nécessaire d'utiliser des belles tournures oratoires pour dire à des gens qu'ils doivent se mettre sérieusement au travail. Dans le premier oracle, fin août 520, le prophète dénonce la négligence des Israélites qui ne se soucient que d'eux-mêmes et de leurs propres affaires, et délaisse le temple en ruine. Il précise que c'est à cause de cette mauvaise attitude que l'Éternel suscite des difficultés économiques qu'ils subissent. Le peuple encouragé par Zorobabel et le grand prêtre Josué, décide alors de poursuivre les travaux. Agé délivre le deuxième oracle le dernier jour de la fête des cabanes, ou tabernacle, à la mi-octobre 520. Alors que le peuple se trouve rassemblé aux alentours du chantier pour le culte lié à cette célébration, les personnes les plus âgées qui ont connu le temple de Salomon avant sa destruction déplorent l'état actuel de l'édifice. Mais Agé passe outre ses rabat-joie et encourage les bâtisseurs à prendre courage en leur promettant la présence et l'aide divine. De plus, il leur annonce que le temple qu'ils sont en train de reconstruire connaîtra une gloire plus grande encore que celle du précédent. Et même qu'un jour, les richesses de toutes les nations afflueront à Jérusalem. Cette prophétie est diamétralement opposée aux circonstances déprimantes dans lesquelles se trouvent les Israélites, car ceux-ci habitent un tout petit lepin de terre de l'Empire perse, et leur qualité de vie est déplorable. Mais, selon Agé, et tous les prophètes d'ailleurs, l'histoire est en marche vers une ère nouvelle qui est le jour de l'Éternel, et qui débutera par un chamboulement du ciel et de la terre avant que Dieu n'établisse son royaume en ce bas monde. Le troisième oracle, prononcé le 18 décembre 520, porte sur la situation économique du pays. Le peuple s'est rendu coupable envers l'Éternel à cause de sa négligence vis-à-vis du temple. Et c'est ce qui lui vaut les conditions misérables dans lesquelles il vit. Mais maintenant qu'il s'est attelé à la tâche de reconstruction du temple, l'Éternel promet de le bénir et de lui accorder la prospérité dès la nouvelle année agricole en cours. Et cela, malgré que les Israélites ne puissent pas consacrer beaucoup de temps aux travaux des champs. Le quatrième oracle, prononcé le même jour que le précédent, comporte une promesse concernant la continuité de la dynastie de David, représentée par Zorobabel, prince de Juda. Lorsque l'Éternel ébranlera le ciel et la terre, les puissances de ce monde perdront le pouvoir pour céder la place au royaume de Dieu. Les oracles d'Agé constituent un appel adressé au peuple de Dieu à faire du royaume à venir sa préoccupation première. À cette exhortation est assortie la promesse que des conditions de vie meilleures lui seront données en plus. C'est aussi ce que Jésus enseigne et que nous rapporte Matthieu. Je lis le passage. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Agé ne condamne pas la préoccupation du peuple pour son propre bien-être comme si c'était une faute, car l'Éternel ne lui demande pas de faire vœu de pauvreté. Par contre, Dieu veut que chacun de nous revoie son échelle de valeur et de priorité, afin de lui accorder la première place. À tout Seigneur, tout honneur. Pour encourager ses compatriotes, Agé ne se contente pas seulement de faire des promesses à court terme, mais comme je l'ai dit, il brosse un tableau du plan de Dieu et de sa finalité qui est l'établissement sur terre du royaume de Dieu. La restauration du temple n'est qu'un prélude, une étape vers cet objectif lointain et grandiose. L'action présente aussi, modeste soit-elle, d'une part, est nécessaire à la réalisation de ce projet divin et d'autre part, a un sens, car elle va dans la direction précise, vers la fin des temps. C'est ainsi qu'en reconstruisant le temple, les Israélites contribuent à la réalisation du plan de Dieu pour les âges. Quand on arrive au Nouveau Testament, on constate que le projet de Dieu a beaucoup progressé depuis le temps d'Agé. La prophétie concernant le bâtiment du temple, alors en reconstruction, est détruite depuis l'an 70 de notre ère par les Romains. C'est réalisé quand Jésus, qui est la révélation de la gloire de Dieu, est venu sur terre. L'annonce d'un chamboulement du ciel et de la terre, débouchant sur une ère nouvelle, est interprétée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme ayant commencé avec l'instauration de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. En effet, celle-ci dépasse et rend caduque l'ancienne alliance du mont Sinaï, car la nouvelle alliance est conclue avec tous les peuples de la terre, ce qui représente un pas de géant vers l'instauration du royaume de Dieu. La prochaine étape sur le calendrier de Dieu est l'enlèvement de l'Église. En tant que représentant de la dynastie de David, Zorobabel est porteur d'une promesse qui s'est accomplie en Jésus-Christ, de la lignée de David, qui a reçu la royauté à sa résurrection, et qui reviendra établir son règne sur la terre entière. Les prophéties d'Agé ont déjà connu un accomplissement partiel, mais nous attendons l'aboutissement de l'ordre nouveau instauré par la mort, résurrection et ascension de Jésus-Christ, et par sa venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Dans cette attente, tous les croyants sont appelés à contribuer à la réalisation du plan de Dieu en participant à l'établissement et à l'édification de l'Église universelle.